Métaphysique à Fribourg, le 31 mai 1983, premier cours.
La dernière fois, nous avons essayé de regarder le problème de la personne pour comprendre comment, au plan philosophie première, toute la philosophie première se nouait autour du problème de la personne. Ça, c'est un très grand problème de savoir ce que représente, au point de vue philosophie première, cette recherche. De fait, il faut bien le reconnaître, quand on regarde la philosophie première chez Aristote, quand on regarde la philosophie première telle qu'elle s'est développée ensuite, la métaphysique, à travers ce que représente quand elle s'est développée à travers les théologiens, il ne faut pas l'oublier que c'est à travers les théologiens que de fait la philosophie première s'est gardée en premier lieu. Je parle de saint Thomas, si vous voulez, de façon très spéciale. Par le fait même que la philosophie première se garde chez les théologiens, elle n'a pas besoin de se nouer. Parce que le théologien se sert de la métaphysique, si j'ose dire, dans la mesure où on peut se servir d'une sagesse, ce qui est au fond assez affolant. Une sagesse a une autonomie, une sagesse a son indépendance, une sagesse a son ordre. Or, la philosophie première représente quelque chose d'ultime, quelque chose de dernier. Vous allez me dire, en tant qu'elle est uniquement science de ce qui est en tant qu'être, elle n'est pas encore sagesse. C'est vrai. Et au fond, le théologien se sert avant tout de cette partie, c'est-à-dire de la philosophie première en tant que science de ce qui est en tant qu'être. Une science, on peut s'en servir, mais pas une sagesse. Ce serait intéressant, eh bien, pour toujours, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est qu'une science et une sagesse. Je crois qu'on pourrait dire ça. On peut dire qu'on use une science et on ne peut pas utiliser une sagesse. Au sens très fort. On use une science parce que la science est d'ordre analytique. Alors, l'analyse, on peut s'en servir. Tandis que la contemplation ne s'en sert pas. Alors, la sagesse est contemplative. Alors, on ne peut pas se servir d'une contemplation. Une contemplation, ça ne sert à rien. Une science, ça sert à quelque chose. Ça sert au moins à analyser, et par le fait même qu'on analyse, on peut posséder quelque chose. Alors, c'est cela qu'il faut bien saisir. C'est que la philosophie première, telle qu'elle est née chez Aristote, elle est née avant tout et en premier lieu comme une science. Pensez au livre Gamma d'Aristote. Et dans le livre Gamma d'Aristote, quand Aristote dit « Il y a une science de ce qui est en tant qu'être. Bon. » Et il a conscience d'avoir fondé cette science, d'avoir découvert cette science. C'est beau ça, du reste. Cette conscience philosophique de découvrir ce que représente une philosophie comme la philosophie première, et de découvrir qu'il y a là quelque chose qui est unique, qui n'a pas encore été dit jusque maintenant, et qui demeure une science. Bon, nous allons très bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Le très gros problème qui s'est posé pour les interprétations d'Aristote, de savoir, est-ce que cette philosophie première science, est-ce que c'est la même que ce qu'Aristote appelle théologie? Et au fond, ce n'est qu'à partir de la théologie qu'on peut dire qu'elle est sagesse. Au sens fort. Donc, comprenons que pour Aristote, le problème de la personne même ne s'est pas posé. C'est sûr. Et on peut dire qu'il y a une analyse, si je regarde attentivement la structure de la philosophie première chez Aristote, telle qu'elle nous est donnée dans les métaphysiques, faut toujours revenir à cela. Vous habituez à connaître un peu les métaphysiques d'Aristote, pas, et de voir combien c'est difficile. Vous avez l'orité là-dessus, sur la structure de la métaphysique, c'est intéressant. On n'est pas nécessairement entièrement d'accord, mais au moins, il y a un problème qui se pose. Il est évident que quand je lis les métaphysiques d'Aristote, c'est fait de pièces et de morceaux. Et je comprends très bien la critique moderne, qui dit, mais non, il n'y a pas d'unité là-dedans, pas possible, on va chercher d'unité là-dedans. Il y a des livres très intéressants les uns les autres. La grande astuce aujourd'hui, c'est de regarder tout simplement au point de vue historique et de saisir qu'au point de vue historique, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres. Donc, position de Jäger. Cette position de Jäger, c'est donc de morceler l'unité des métaphysiques d'Aristote pour essayer de découvrir qu'il y a des couches successives. On peut le faire, c'est intéressant, c'est une analyse intéressante à faire. Nous, en France, c'est la méthode historique de notre monde d'aujourd'hui. On fait la même chose pour l'écriture. On fait ça. C'est une manière de regarder les choses. Alors qu'au Moyen-Âge, il y a quand même deux lectures d'Aristote tout à fait différentes, au Moyen-Âge, les théologiens, ici je parle surtout de Saint-Thomas, lisaient les métaphysiques d'Aristote en essayant de comprendre la structure de l'unité. Le souci de saint Thomas, c'est de regarder comment ces livres de métaphysique impliquent une unité organique. Je crois que notre souci à nous, puisqu'on est en face de deux positions diamétralement opposées, je ne dis pas c'est de faire une synthèse, ce sera un peu gros, mais c'est de repenser le problème de l'unité des métaphysiques. Ça, je crois. Si on dit, si on coupe la métaphysique de façon telle qu'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de science. Une science implique une unité. Mais il est sûr que la philosophie première, pour Aristote, représente la science par excellence. Donc la science qui a la plus grande unité, mais en même temps, puisque cette unité est une unité logique, puisque l'un est accolé de l'être, comme l'être est analogique, l'un est analogique, nécessairement. Une analogie différente, l'analogie de l'un et l'analogie de l'être ne sont pas les mêmes. Il faut bien comprendre que l'analogie de l'être et l'analogie de l'un ne sont pas les mêmes, mais tous les deux sont analogiques, en ce sens que l'unité de la philosophie première est une unité qui va plus loin que l'unité d'une autre science. Mais c'est une unité en même temps beaucoup plus difficile à saisir à cause de l'analogie, donc, qui implique des diversités plus grandes. Il y a dans la mythe, dans la philosophie première, c'est ça qu'on n'a pas compris, je ne dis pas l'orité, mais les autres n'ont pas compris qu'il y avait une diversité plus grande dans la philosophie première que dans les autres sciences. Alors on a un schéma logique de la science qu'on a regardé dans les analytiques d'Aristote, et on l'applique. Alors, n'oublions pas que le schéma logique de la science, c'est très bien. La science peut être étudiée au niveau logique, mais quand on étudie la science au niveau logique, on ne sait pas le contenu de la science. Or, le propre de la science, c'est justement d'être objectif, et donc d'avoir une diversité en fonction même du contenu. C'est là, je crois, ce qui a été l'erreur d'un Hamelin, par exemple, pour prendre un mot. Hamelin a regardé avant tout la science au niveau logique, et puis l'a appliquée en métaphysique, sans voir du tout qu'on était en présence avec la métaphysique de quelque chose de tout à fait différent comme du contenu. Alors il a dit, les analytiques, c'est avant tout pour les mathématiques. Tout simplement parce qu'Aristote prenait des exemples mathématiques. Je crois que ce n'est pas vrai du tout. Étant donné que pour Aristote, quand on regarde attentivement les analytiques, on voit que le jugement d'existence est nécessaire pour lui, pour le point de vue proprement scientifique. Alors, le jugement d'existence en mathématiques, on le sait bien, ce n'est pas immédiat. Donc, on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas commode du tout de voir le lien qui qui existe entre la conception logique de la science et la conception métaphysique de la science. Pas la même chose. La logique abstrait, tandis que la métaphysique, elle abstrait aussi, mais elle sépare, ce n'est pas de la même façon. Et elle doit regarder le réel. Elle doit regarder le point de vue du réel. Et je crois que beaucoup de confusions sont venues de là. Sont venues que, de fait, on n'a pas compris suffisamment que pour Aristote, la logique n'était pas la philosophie. On a toujours beaucoup de peine, vous savez, de quitter le milieu dans lequel on est. Or, pour nous, pour la plupart des gens aujourd'hui, la logique, ça ne fait qu'un avec la philosophie. On n'a plus du tout l'idée de la logique comme organome. On n'a plus du tout l'idée de la logique comme instrument. Alors, par le fait même, on prend la conception qu'Aristote se fait de la science dans les analytiques, et puis on l'applique directement, oubliant que la science se découvre à partir d'une connaissance scientifique et non pas à partir de logique. Mais il y aurait une analogie semblable à faire, je crois qu'elle serait importante pour nous à bien saisir, parce que c'est au fond là le blocage qui s'est fait, et c'est à partir de là qu'on ne comprend plus rien du tout. Mais il y a quelque chose d'analogue entre art, vertu, logique. Vous avez compris, hein? L'art ne peut se comprendre qu'à partir de la connaissance artistique. L'art naît de la connaissance artistique. Donc, je ne peux pas comprendre ce que c'est que l'art si je ne regarde pas sa source, c'est-à-dire les connaissances artistiques. L'activité éthique est à l'origine de la vertu. Et la vertu se comprend en fonction de l'activité éthique, comme de fait l'art se comprend en fonction de l'activité ou de la connaissance artistique. La logique ne peut se comprendre qu'en fonction de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique est antérieure à la logique, puisque la logique va venir aider la connaissance scientifique. La logique est pour la connaissance scientifique. Sa finalité, c'est pour la connaissance scientifique. Si je dis c'est par la logique que je connais la connaissance scientifique, je ne connais plus rien du tout de la connaissance scientifique. Je ne connais plus que la logique. Si je prétends que c'est par la vertu que je connais la vertu, l'activité éthique, je ne comprends plus ce que c'est que l'activité éthique. L'activité éthique, elle est finalisée. La vertu présuppose la fin, mais la vertu ne me donne pas le sens de la fin. Bien comprendre. Hein? Là, présuppose activité artistique qui, elle, est ordonnée à l'œuvre. C'est par l'activité artistique que je comprends que l'art est au service de cette activité artistique pour qu'elle soit parfaite, pour arriver à réaliser l'œuvre. C'est la même chose pour la connaissance scientifique. La connaissance scientifique a sa propre finalité, la vérité. La connaissance scientifique est ordonnée à la vérité. La finalité de la connaissance scientifique, c'est la vérité. Et la logique est au service de cette connaissance scientifique. Mais la logique ne nous donne pas la vérité. La vérité, elle est dans la connaissance scientifique. Elle n'est pas dans la logique. La logique n'a pas de vérité au sens absolu. Il y a simplement des vérifications, une vérité logique, on sait très bien que tout à fait particulière, qui est simplement le fait que la connaissance n'implique pas de choses erronées. Alors je crois que c'est bon pour nous de mettre ce parallélisme entre les trois. Parce que la connaissance scientifique parfaite pour Aristote, c'est la philosophie première. La philosophie première qui fait atteindre une vérité. La vérité dans ce cas-là plus profond, plus radical. La philosophie première pour Aristote, c'est la connaissance la plus fondamentale de mon nous. L'intelligence n'est parfaitement elle-même comme intelligence qu'au niveau philosophie première. Puisque l'intelligence de nous, est ordonnée à ce qui est. Ce n'est donc que quand je connais ce qui est de manière explicite, dans le dit point de vue de l'être, que mon nous peut se développer parfaitement. Mon nous est parfaitement lui-même là. Tandis que quand je développe la logique, qu'est-ce que je développe ? Je développe le conditionnement du nous. Et le conditionnement du nous, c'est la raison. J'ai une intelligence rationnelle. J'ai une intelligence qui implique le point de vue du raisonnement. Une intelligence qui implique l'abstraction. Et c'est ça que je développe du côté de la logique. Vous comprenez que si la logique prend possession de la connaissance scientifique, je ne verrai plus de l'intelligence que l'aspect abstrait, que l'aspect rationnel, que l'aspect de la démonstration. Je ne verrai plus que cela. Et le point de vue de la vérité disparaîtra. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Regardez historiquement, c'est bien ce qui s'est passé. Le rationalisme, de fait, a supprimé le point de vue de la connaissance philosophique dans sa recherche de la vérité, dans sa recherche de la contemplation. L'intelligence est faite, la philosophie première est faite pour contempler. Tant qu'elle n'est pas dans la contemplation, elle n'est pas elle-même. Or, la logique ne me dit rien de la contemplation. La logique n'est pas opposée à la contemplation, elle n'est pas au même niveau. Et elle ne le sait pas du tout, il n'y a pas une logique de la contemplation. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous voyez bien que l'intelligence, elle, dans sa finalité profonde, est ordonnée à autre chose. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut faire grande attention quand on réfléchit sur l'unité de la philosophie première d'Aristote. Je crois que la première chose qu'on devrait faire ça, c'est débloquer ce qui s'est fait dans notre pensée, le point de vue logique et le point de vue connaissance scientifique. Ça me frappe énormément. Ça me frappe énormément, et cette source, quantité de sophisme. La logique vient au service, organel, elle vient préciser exactement comme la vertu et comme l'art. Ça vient préciser l'activité fondamentale qui est l'activité de l'homme. La logique n'est pas une dimension de l'anthropologie. Quand vous essayez de comprendre les dimensions de l'homme, vous ne mettez pas comme dimension la logique. Cet homme est vraiment homme, il est un logicien. Attention, c'est très heureux qu'il soit logicien, c'est une qualité d'être logicien, c'est une qualité, mais ce n'est pas au fond des dimensions de l'homme comme tel. C'est une dimension, c'est un instrument du conditionnement humain. Donc, comprenons que l'unité de cette connaissance scientifique qui est la philosophie première est une unité très difficile à saisir. Pourquoi ? Parce qu'elle est analogique. Du fait même qu'elle est analogique, elle est très difficile. Elle ne peut se saisir qu'à travers la saisie des principes propres de la philosophie première. Tant que je n'ai pas saisi les principes propres de la philosophie première, je ne peux pas saisir l'organisation, la structure de la philosophie première. Cela, Aristote nous le dit dans les analytiques. C'est donc une interprétation d'Aristote par lui-même. C'est que toute connaissance scientifique a ce caractère particulier comme connaissance scientifique d'impliquer des principes propres. Tant qu'il n'y a pas de saisie de principes propres, il n'y a pas de connaissance propre scientifique. Et le propre de la connaissance scientifique, c'est à partir des principes d'arriver à la conclusion, c'est-à-dire de saisir les propriétés. La connaissance scientifique cherche les propriétés. Et ce que Aristote fait quand il cherche la propriété de ce qui est du point de vue de l'être, en disant que cette propriété, c'est là. Aristote n'a pas du tout terminé sa philosophie première par le problème de la personne humaine. Il n'a pas fait. Dire que c'est une lacune énorme, on peut dire aussi qu'étant donné ce qu'il a fait, Aristote, c'est quelqu'un qui découvre. Et quand quelqu'un découvre, vous savez bien, il cherche l'essentiel, et puis, c'est tout. Ce qu'on peut dire, et c'est ce que nous allons voir après, c'est que la philosophie première pour Aristote va s'achever en théologie. Ça, on ne peut pas dire. On pourrait dire qu'il y a comme un télescopage de la personne humaine. Aristote, pourtant, est très conscient que sa philosophie du péripsychès, sa philosophie de l'âme, c'est la philosophie de l'homme. Et on sent très bien que dans sa philosophie du péripsychès, ça reste imparfait. Le dernier mot sur le nous n'est pas dit. Et le péripsychès, philosophie du vivant, demeure en attente de ce que c'est le nous. Il regarde l'exercice du nous, l'exercice vital du nous, mais il ne nous donne pas le dernier mot sur le nous. Le dernier mot sur le nous sera donné en philosophie première. Et c'est peut-être là où on voit très bien comment Aristote aurait pu, je dis aurait pu, parce que moi je crois qu'il faut le faire, aurait pu compléter sa philosophie première en gardant le problème de la personne. Voilà. Un moment d'arrêt pour que nous réfléchissions. C'est important. C'est pas du tout secondaire pour moi. Pour moi, c'est capital. C'est capital de comprendre que la philosophie première s'achève autour du problème de la personne. Parce que ça donne, vous comprenez, à la philosophie première, un réalisme très grand. Ça donne à la philosophie première une finalité très grande. Et face à la psychologie d'aujourd'hui, par exemple. Les psychologues voudraient beaucoup avoir le dernier mot sur la personne. Ils voudraient beaucoup, ça c'est évident. C'est ce qu'ils désirent, pouvoir donner une synthèse psychologique autour de la personne et faire comprendre ce que c'est que la personne. Donc, il faut pouvoir répondre à ce qu'il y a d'intéressant dans cet effort psychologique. Les psychologues-là nous obligent d'aller plus loin. Vous voyez, les métaphysiciens ont dormi. Hein. Et les psychologues les réveillent. C'est comme ça. Chaque fois que le peuple d'Israël dormait, le Philistin était là. On le réveillait. Vous voyez les analogies. N'est-ce pas ? Alors, comprenez comment, de fait, le psychologue est là, les psychologues sont là, et eux ont travaillé. Et ils travaillent avec force pour essayer de donner une synthèse au point de vue personne. C'est sûr. Ça, c'est le gros problème d'aujourd'hui, je crois, philosophiquement. C'est le problème de la personne. Alors, est-ce que ce problème de la personne doit être au niveau proprement anthropologique, philosophie du vivant, doit être proprement au niveau éthique? On y reviendra dans quelques minutes. Je voudrais simplement réfléchir un instant sur ça. La philosophie première d'Aristote, il n'y a pas eu quelqu'un qui a vraiment suivi Aristote après lui. En fait, après Aristote, quelles sont les grandes écoles? On voit des commentateurs, on voit qu'immédiatement c'est le stoïcisme et le platonisme et le néoplatonisme. Platon a eu un successeur, Aristote n'a pas eu. Il n'y a pas d'analogue à Aristote, à Plotin. Ça fait. Plotin achève le divin Platon. Je ne demande pas qu'on ait le divin d'Aristote, mais Aristote n'a pas eu de Plotin. Il n'y a pas eu un Plotin qui a achevé Aristote. Hein. Parce qu'au fond, l'aristotélisme a été continué par des commentateurs. Il n'y a pas eu quelqu'un comme Plotin qui est génial, il faut bien le reconnaître. Et Plotin donne au platonisme une espèce d'essor nouveau, un élan nouveau qui n'a pas existé pour Aristote. Quel est celui qui aurait joué un rôle analogue pour Aristote, au point de vue historique? C'est saint Thomas. On pourrait dire que saint Thomas est un disciple bien-aimé d'Aristote. Je crois. Je crois que c'est un disciple bien-aimé. Quand ils se sont rencontrés dans l'au-delà, ils ont dû se reconnaître avec un certain amour. Mais attention, ce disciple bien-aimé est un théologien. Est un théologien. Il n'est pas un philosophe. Saint Thomas ne veut jamais, n'a jamais voulu achever, compléter l'œuvre d'Aristote. Jamais. Il l'a commenté, il l'a corrigé. En voyant ce que on devait dire si on était un théologien, c'est-à-dire par rapport à la foi. Donc il a utilisé la philosophie d'Aristote au très grand sens. Mais c'est quand même utilisé. Anchilla. Elle est servante de la foi. En théologie, la philosophie n'est pas anchilla. Ceci, c'est très très important de comprendre, parce que toute la scolastique a continué dans cet esprit. Alors, au bout d'un certain temps, quand on est servante des années, vous savez, on prend des mœurs de servante. Hein. Ça arrive, ça. On est des mœurs de servante. Et alors, quand la philosophie prend des mœurs de servante, elle est très déshabillée. Elle n'a qu'un tablier de service. Et elle n'a plus du tout sa splendeur, sa beauté, son autonomie. C'est le migra qui devient le plus. Hein. Il n'y a plus aucune beauté. Et c'est vrai, quand je regarde la scolastique, surtout la scolastique décadente, je vois que de fait, la philosophie n'a plus d'autonomie. J'allais presque dire, sa seule autonomie, c'était la logique. C'est le dragon. Chose qui est intéressante dans la scolastique, c'est la logique. Elle a un intérêt très limité. Très limité. Mais elle a été... La logique a gardé, c'est pas comment, parce que la logique, c'est pas sa travestie. Hein. La logique, par nature, est servante. Alors elle n'est pas gênée d'être servante de la théologie ou d'être servante de la philosophie. Elle peut être servante des deux côtés. Alors quand la philosophie devient servante, la logique continue son service. Elle n'est pas dénaturée. Tandis qu'au contraire, la philosophie, je ne dis pas qu'elle est dénaturée quand elle est servante de la théologie, mais elle risque de l'être tôt ou tard. Si le théologien n'est pas philosophe, si le théologien n'est pas philosophe, il dénature la philosophie dont il se sert. Nous avons tous fait ces remarques-là et nous avons tous senti chez tel ou tel théologien qu'on connaissait. Vous comprenez ? Je parle, je prends l'exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, comme il est au ciel, pour parler, le père Garrigou Lagrange. Mais il a dénaturé la philosophie, c'est évident. C'est la philosophie, à partir du père Garrigou Lagrange, on ne voit plus très très bien, il faut bien voir. Et les succès d'années de la philosophie du père Garrigou Lagrange, on voit très bien que c'est quand même assez limité. On donne des définitions, on reprend des choses, on reprend les 24 thèses thomistes, n'est-ce pas ? Et c'est les 24 thèses thomistes qu'on donne. Et au fond, la philosophie thomiste se rassemble en 24 tiroirs. Bon, vous avez des dossiers, 24 thèses. La philosophie, c'est pas faire des thèses. La philosophie, c'est une recherche de la vérité. C'est pas des thèses. Les thèses, c'est bien pour les examens. Il y a encore, hein. Et encore, parce que si vous faites des thèses aux examens, je vous arrêterai tout de suite, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux voir si vous avez tapé quelque chose. C'est la seule chose. Savoir si on peut défendre, c'est très bien pour la logique, mais c'est pas suffisant. Alors, il y a ce phénomène très particulier, c'est que saint Thomas n'a pas du tout éprouvé le besoin de compléter, d'achever la philosophie d'Aristote. Il s'en est servi. Il a développé énormément le problème de la personne. Mais en théologien, il aurait pu à ce moment-là, voyant l'importance du problème de la personne, se poser la question, quelle différence y a-t-il entre la découverte de la substance et la découverte de la personne ? Il aurait pu le faire. Et ce serait intéressant, hein, à l'intérieur de saint Thomas, de se poser la question, quelle différence pour saint Thomas entre la découverte de la substance et la découverte de l'usée de la personne ? Il l'a fait en se servant de Boès. C'est très bien. La personne, la substance, ça se tient. Mais on sait très bien que la personne n'est pas la substance. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une tête de plus. Il y a l'esprit qui vient tout troubler. Il y a l'esprit, il y a l'intelligence, il y a le point de vue de l'âme spirituelle qui vient, qui fait qu'on est obligé d'avoir une substance. Mais d'une nature raisonnable. d'une nature raisonnable. Donc on voit très bien, elle a très bien senti la différence entre le problème de la substance et le problème de la personne, c'est qu'il y a le problème de l'esprit. Alors quel est le lien entre l'esprit et substance? Alors, on vient là au problème fondamental, quel est le lien entre l'esprit et substance? Et au fond, on retrouve le problème du dianima. Quel est le problème entre la nature? Le problème de la nature et de la substance, Aristote s'est constamment posé le problème. C'est peut-être même un des grands problèmes d'Aristote. Quel est le lien entre nature et substance? Et chez saint Thomas, quel est le lien entre nature et esprit? Entre nature et substance? Un nouveau problème. Saint Thomas l'a traité en théologien, pas en philosophe. C'est resté comme ça. Alors, parce que saint Thomas ne l'a pas traité en théologien, en philosophe, qu'il l'a traité en théologien, la bonne scolastique a continué de ne pas le traiter et de répéter saint Thomas. Et quand vous regardez les bons manuels scolastiques, je prends Macquart, ou je prends le Père de Finance, le Père de Finance avec une qualité supérieure, et Macquart, qui est dérivé, je crois, manuel en latin. Quand je suis arrivé ici, c'était le dernier manuel en latin. Quand on avait demandé les cours en latin, on se précipitait sur Macquart, parce que c'était en latin. Alors, j'ai regardé Macquart comme un livre en latin. Mais, au fond, la substance, la personne qui n'est pas traitée en philosophie première, c'est bien évident. Tu restes à ce moment-là, je ne vous posais pas le problème. C'est bien ça. Je crois que tout le monde. Dans un problème de philosophie. Mais petit à petit, on dit, mais quoi? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une anthropologie qui pousse. Et l'anthropologie a poussé fortement avec Kant. C'est évident. Le problème de l'anthropologie est devenu majeur avec Kant. Plus une métaphysique, mais une anthropologie. Cette anthropologie, si je regarde chez Kant, évidemment, je vois que c'est pas toujours commode d'avaler ça. L'anthropologie, c'est particulier. Mais à partir de Kant, on peut dire, ça c'est le problème de la personne au point de vue psychologique, s'est beaucoup développé. Le problème de la personne s'est posé chez les philosophes. Il s'est posé avec beaucoup d'acuité chez les philosophes. Je ne vois aucun, si vous le voyez, vous me le direz, je ne vois aucun qui a essayé de voir le problème du lien entre philosophie première et personne. Et c'est pourtant, je crois, le problème majeur. Parce qu'il s'agit de comprendre comment l'anthropologie et la philosophie première ne s'opposent pas, contrairement à Kant, mais au contraire, philosophie première et anthropologie se lient. Une véritable anthropologie implique une métaphysique. Une véritable anthropologie implique une métaphysique. Et si une anthropologie n'implique pas une métaphysique, il y a quelque chose qui manque. Et à ce moment-là, j'aurais la tentation, si je n'ai pas une métaphysique, j'aurais la tentation de considérer que l'anthropologie se termine en philosophie du nom, ou que l'anthropologie se termine en éthique. Je crois que ce seront les deux grandes anthropologies que je pourrais avoir, si elle n'est pas dominée par le point de vue de la philosophie première. J'avais l'anthropologie au niveau de la philosophie du vivant, en considérant que l'homme est le vivant maximé étalé. Parmi tous les vivants, vous avez le vivant le plus parfait qui est l'homme. Et vous aurez une anthropologie qui se termine sur moi, qui est le vivant par excellence. À ce moment-là, vous avez le problème de la personne se traduit au niveau de la vie. C'est le niveau de la vie. Ou bien alors, vous aurez le problème éthique, l'anthropologie se termine au niveau éthique, alors vous avez le problème de la responsabilité. Ça va de loin. Je crois que l'éthique présuppose la philosophie du vivant et l'éthique achève la philosophie du vivant. Parce que ici, je suis en face du problème de la finalité. À ce moment-là, il y a quelque chose de beaucoup plus. Mais regarder uniquement la personne humaine au niveau éthique, c'est regarder le problème de la personne en tant qu'elle est capable de s'orienter. Dominant sous, c'est la responsabilité. C'est le point de vue volontaire. La personne, c'est elle qui se domine. C'est elle qui est capable de elle a la capacité de s'orienter. Elle se domine sur ses opérations. Et elle a une finalité. Et je ne dis pas plus. C'est très bien, c'est intéressant, mais au fond, ça ne va pas plus. Ce qui explique la position de Maritain. Moi, je regarde attentivement Maritain, je vois qu'au fond, la position de Maritain, c'est le problème de la personne au niveau éthique et au niveau politique. Avant tout. Comme vous y êtes, position éthique et politique. La position au point de vue philosophique du vivant, ce serait intéressant à regarder, serait peut-être beaucoup plus dans la perspective de la phénoménologie. Vous avez beaucoup plus les différentes activités où l'homme et la conscience de l'homme dans ses diverses opérations vitales. Mais vous n'avez pas le lien entre la philosophie première et la personne. Alors vous avez cette chose très curieuse, d'une part une philosophie première, d'autre part une anthropologie. Et alors vous dites, mais pourquoi la philosophie première? Ah, parce qu'on l'a toujours dit. Alors vous avez une conception de la philosophie première selon la tradition, ce qui n'est plus une philosophie première. Ah, la philosophie première, c'est laissé pour une théologie. Ah oui, mais comme on dira que le renouveau de la théologie, c'est l'anthropologie qui remplace la métaphysique, alors à ce moment-là, la métaphysique est liée au garage. Ou, si vous voulez, au sous-sol, si on peut dire. Elle est mise au sous-sol, n'est-ce pas, pour la garder. Elle le dit en sous-sol, on la considère comme de l'autre. C'est exactement ce qui se passe, hein? N'oubliez pas. Car Ranald a dit, avec netteté, la théologie nouvelle, la théologie moderne, c'est qu'à la place de se servir de la philosophie première, on se sert de l'anthropologie. On voit très bien le jeu. Eh bien, je crois que si nous voulons répondre cette crise de la théologie d'aujourd'hui, à cette crise de la philosophie d'aujourd'hui, le problème central, c'est les rapports de la philosophie première et de la personne humaine. C'est le problème clé. Si on ne voit pas ça, on passe à côté. C'est qu'on est obligé de dépasser la philosophie du vivant et de dépasser l'éthique pour comprendre que c'est vrai, c'est l'homme qui est la dernière synthèse. C'est l'homme qui noue toute la philosophie. Et que le problème de l'homme va nouer le problème de la philosophie première. Je vois bien les rapports, comprenez bien, je vois bien les rapports entre la philosophie première, la philosophie du vivant et l'éthique. Si je suis un tout petit peu intelligent, et je suis habitué à la réflexion philosophique, je vois bien, ça c'est assez classique, on voit bien les rapports entre la philosophie première, la philosophie du vivant et l'éthique. Eh bien, il faut comprendre à ce moment-là que toute la philosophie du vivant s'achève dans l'homme, que toute l'éthique s'achève dans l'homme, et que la philosophie première s'achève dans le problème de la personne humaine. C'est l'homme en tant que personne. Et c'est là où je comprends la signification alors profonde de la philosophie première qui doit s'achever dans la considération de la personne. Là, je vois, vous voyez, ce que Heidegger a pressenti ça, mais il ne l'a pas exprimé, parce que Heidegger, c'est d'ordre beaucoup plus intuitif. C'est de l'ordre intuitif. Il y a des intuitions merveilleuses qu'il faut essayer de récupérer, mais on ne peut pas le suivre directement, parce qu'il n'y a pas au sens strict d'analyse philosophique, Heidegger a très bien senti qu'on ne pouvait pas rester au niveau de la psychologie. Et qu'on devait dépasser la psychologie pour redécouvrir l'être. Ça, il le dit avec force. Bien, disant ça, ça veut dire « Je ne veux pas rester au niveau de l'anthropologie psychologique. Je ne veux pas rester au niveau de la considération du psychologue par rapport à la personne humaine. On doit aller plus loin. » on doit découvrir ce que c'est que l'être. Alors la très grosse difficulté, une fois qu'on a compris ça, je crois que ça on peut le comprendre, historiquement comment le problème se pose, et comment nous sommes là, directement en face d'un problème qui me semble être le problème majeur. Au point de vue de la philosophie première, au point de vue de l'éthique, et au point de vue de la philosophie du vivant, les trois se tiennent. Triangle. Les trois se tiennent. Et les trois se nouent autour du problème de l'homme et autour du problème de la personne humaine. Alors, le grand problème, c'est de savoir, par rapport à la philosophie première, comment se situe le problème de la personne. Comment se situe le problème de la personne. Est-ce que le problème de la personne va me faire déboucher vers une nouvelle philosophie qui sera la philosophie de la personne humaine en me donnant un nouveau principe? Ou est-ce que le problème de l'homme, de la personne humaine, va être en quelque sorte le nœud qui rassemble tout? Tout ce que ma philosophie première a dit, je le concrétise dans l'homme. Je le concrétise dans le problème de la personne humaine. Je ne dis pas que c'est la conclusion. Parce que je pourrais me poser la question, mais après tout, c'est peut-être la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion. C'est autre chose. C'est le pose. C'est le comment. Comment la substance se réalise-t-elle parfaitement? Comment l'acte se réalise-t-il parfaitement? Quand je saisis un principe, au plan philosophique, je ne dois jamais rester au niveau du principe. Je dois le saisir le mieux possible. Je ne reste pas au niveau du principe. Rester au niveau du principe, c'est plafonner au bout d'un certain temps et c'est tomber dans la cérébralisation. Et donc, c'est oublier que je suis parti de l'expérience et que je reviens à l'expérience. Toute la philosophie doit s'achever dans le jugement d'existence d'une réalité que je peux atteindre immédiatement. Autrement, alors, je risque d'identifier la philosophie et la logique. Toujours le même. La logique demeure dans l'universel. C'est le propre de la logique de demeurer dans l'universel. La logique regarde l'universel. Et la logique ne sort pas de l'universel. La philosophie première part du jugement d'existence et retourne au jugement d'existence. Et elle regarde la réalité existante. Et pas l'universel. Et la réalité existante la plus parfaite, c'est la personne. C'est la personne humaine qui est la réalité la plus parfaite. Et donc à ce moment-là, j'essaie de comprendre comment tout mon effort d'analyse de la philosophie première doit se concrétiser autour du problème de la personne. À ce moment-là, je comprends que ma philosophie première, la métaphysique, prend une signification extrêmement importante, puisque cette signification, c'est justement de regarder l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même, son esprit. Par où il est une personne, et que je ne peux pas saisir l'esprit de l'homme sans la métaphysique. Impossible. Si je n'ai pas de métaphysique, je ne saisis pas ce que c'est que l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit ne se dévoile que dans la mesure où il est en acte, par ceux qui l'actuent de la manière la plus profonde. Qu'est-ce qui actue l'acte de la manière la plus profonde? C'est la découverte de l'être en marche. C'est là où l'intelligence est parfaitement actuée. C'est quand elle découvre l'être en marche. Quand elle découvre la substance comme principe. Mais c'est l'être en marche qui finalise, qui actue de la manière ultime et dernière. Là, il y a quelque chose de très grand, quelque chose de très beau à voir. Et une fois que j'ai compris ça, je comprends comment le problème de la personne est au cœur, au terme de la métaphysique. Et il met comme un sommet, c'est le comment dernier de ma recherche philosophique. Substance, acte, un. Tout se ramène à la personne. Et tout me permet de préciser ce que c'est que la personne. Me permet de comprendre ce que c'est que la personne humaine avec son conditionnement humain. Son unité, sa spécificité. Sa recherche, sa finalité. Et le philosophe peut, le métaphysicien peut à ce moment-là préciser que la personne humaine, tant que je n'ai pas précisé sa finalité propre, je ne sais pas ce qu'elle est. Et là, je montre que je dis quelque chose que les psychologues ne peuvent pas dire. On veut préciser la finalité de l'esprit. Et toute la philosophie en définitive, c'est de préciser la finalité de l'esprit. Et ceci, c'est précisé dans la personne humaine. À partir de là, le problème rebondit. C'est ce que nous verrons tout à l'heure.